Il y a sur Terre des petites choses qui pour nous possèdent une très grande valeur, comme une pépite d'or, ou un diamant par exemple. Et il en est de même dans les textes sacrés. Avec seulement deux versets, le psaume 117 ne se fait pas remarquer. Il est tellement court que certains commentateurs pensent que c'est un fragment qui s'est détaché d'un autre psaume. Mais peut-être qu'il s'agit simplement d'une brève doxologie qui était chantée à un moment du culte pour affirmer l'espérance du peuple. En tout cas, même si ce psaume est le plus petit à la fois du psautier et de tous les chapitres de la Bible, il contient une promesse prodigieuse. Le psaume 117 fait partie de la série Hallel, qui va du psaume 113 au 118 et qui est chanté pendant les trois grandes fêtes de la nation d'Israël. La Pâque, la fête des moissons, Pentecôte, et la fête des cabanes, tabernacle. Pour la Pâque, les psaumes 113 et 114 sont chantés avant le dîner, les psaumes 115 et 116 pendant le repas, et les 117 et 118 après le repas. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est écrit « Jésus et ses disciples chantèrent les psaumes de la Pâque ». Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Matthieu, chapitre 26, verset 30. Je commence à lire le psaume 117. « Louez l'Éternel, toutes les nations, chantez ses louanges, ô vous, tous les peuples !» Psaume 117, verset 1er. Cet hymne exhorte le fidèle à rendre hommage à Dieu pour sa fidélité et sa bonté. L'apôtre Paul cite ce verset dans son épître aux Romains, au chapitre 15 et au verset 11, pour démontrer que le salut en Jésus-Christ est offert à tous les peuples et pas uniquement à Israël. Cette doxologie est une louange qui regarde donc vers l'avenir quand toutes les nations et tous les peuples célébreront ensemble l'Éternel et le reconnaîtront comme le Seigneur de toute la terre. Il va sans dire que nous n'en sommes pas encore là, car aujourd'hui, aucune nation ne loue Dieu de cette façon, mais le jour viendra où il en sera ainsi. Le prophète Zacharie écrit « En ce jour-là, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel et deviendront mon peuple, et je demeurerai au milieu de vous tous, et vous saurez que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, m'a envoyé vers vous. Et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de toutes les nations qui seront venues attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. » Zacharie, chapitre 2, verset 15, chapitre 14, verset 16. Au cours des siècles passés, il y a eu plusieurs réveils spirituels qui ont donné l'impression que le ciel était sur le point de s'installer sur terre, que le millénium allait être instauré. Mais cet espoir fut vite déçu parce qu'il était mal fondé, étant en porte-à-faux avec les prophéties qui concernent la fin des temps. En effet, toutes annoncent qu'il faut d'abord que paraisse l'Antichrist, l'homme de péché, dont le règne sera marqué par une période d'intense détresse comme le monde n'en a encore jamais connu. Je finis de lire le psaume 117. « Car il est immense, son amour pour nous, sa fidélité subsiste à jamais. Louez l'Éternel !» Psaume 117, verset 2. Le psalmiste rappelle que Dieu est fidèle et qu'il aime Israël. Effectivement, à la fin de la grande tribulation, il relèvera son peuple oppressé. Jésus reviendra sur terre, non plus tel un agneau apprêté pour le sacrifice, mais comme un lion rugissant qui établira son royaume par la force. Comme je l'ai dit, selon l'apôtre Paul, les actions de Dieu envers le peuple élu ont une portée universelle. Elle montre ce que Dieu a l'intention de faire pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Le psaume 117 est peut-être un psaume miniature par sa petitesse, mais il est grand par sa promesse, puisqu'il anticipe le jour où toutes les nations rendront hommage à l'Éternel. Le Nouveau Testament prévoit également ce temps béni. lors du concile de Jérusalem organisé par les apôtres, les premiers chrétiens, qui étaient juifs, ne comprenaient pas pourquoi les prophéties de l'Ancien Testament relatives au rétablissement du royaume de David tardaient à s'accomplir. Alors, l'apôtre Jacques s'est levé et a dit « Simon Pierre vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. » Acte 15, verset 14. C'est exactement ce qui a lieu aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance. Dieu est en train de se constituer un peuple dont les membres sont issus de toutes les nations, et il les place dans l'Église de Jésus-Christ. Je continue le discours de Jacques. Cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, après cela, dans Acte chapitre 15, les versets 15 et 16. Après quoi ? Après que le temps de l'Église sera achevé, dès que la dernière personne prédestinée aura placé sa confiance en Jésus-Christ, alors, tous les membres de l'Église seront enlevés dans les airs pour aller dans les cieux. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 14 à 17. Je continue le discours de Jacques. Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai, et je rebâtirai la maison de David qui s'était effondrée, et j'en relèverai les ruines, je la redresserai, alors le reste de l'humanité se tournera vers le Seigneur, oui, toutes les nations qui seront appelées à m'appartenir. Acte chapitre 15, les versets 16 à 17. Le psaume 117 prophétise la venue du règne de Jésus-Christ sur terre quand tous les hommes rendront gloire et honneur à l'Éternel. Ce jour n'est pas encore venu et beaucoup de croyants trouvent le temps long. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Mais ce jour est prévu dans le calendrier divin. Alors, dit le psaume 67 verset 7, Dieu nous bénira et toutes les extrémités de la terre le révéreront. Le psaume 117 est comme une bombe au milieu du psautier, et quand elle explosera, le monde sera mis en dessus-dessous par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Jésus reviendra pour régner sur terre, et les paroles de ce psaume seront accomplies. Alléluia ! Louez l'Éternel ! Nous arrivons au psaume 118, qui est un chant à plusieurs voix pour une procession. Selon la tradition juive, il était chanté pendant la fête des cabanes. Il a probablement été rédigé lors de la dédicace du temple reconstruit 6 ans après le retour de l'exil babylonien. Il exprime la joie de la nation d'Israël devant la réussite de ce projet grandiose en dépit de la malveillance des nations voisines. Il est vrai cependant que dans le livre d'Esdras, au chapitre 3 et les versets 10 et 11, on lit qu'après le retour de la captivité babylonienne, au moment où les colons juifs posèrent les fondements du temple de Jérusalem, les Lévites célébrèrent l'Éternel en se répondant les uns aux autres et en disant « Oui, il est bon, et son amour pour Israël durera toujours ». Ces paroles « Oui, son amour durera toujours » qui sont répétées comme un refrain dans les 4 premiers et dans le dernier verset du psaume 118, semblent lui assigner comme date de composition le moment où fut posée la première pierre du temple, c'est-à-dire la deuxième année après le retour de Babylone. Oui, mais comme plusieurs versets du psaume 118, c'est-à-dire les 19, 20 et 26, parlent du temple comme étant déjà construit, c'est plutôt au moment de sa dédicace, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Esdras, chapitre 6, verset 13. Et 6 ans après le début des travaux, que ce cantique a certainement été rédigé. Son auteur lui a très probablement ajouté le refrain qu'on a dans les 4 premiers et dans le dernier verset. Cela dit, le psaume 118 a toujours été un grand encouragement pour les chrétiens dans la détresse. Luther a dit « Ce psaume est le mien. Il m'a tiré d'angoisse d'où ni empereur, ni roi, ni aucun homme sur la terre n'aurait pu me sortir. » Ce psaume était particulièrement cher aux Huguenots, qui le surnommèrent « l'hymne des martyrs ». En 1587, avant d'engager la bataille de Coutras contre l'armée de la Ligue, les Huguenots chantèrent la strophe qui commence par « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse » Psaume 118, verset 24. Les martyrs chantaient aussi ce cantique lorsqu'ils montaient sur l'échafaud. Le bûcher ou la potence, comme le pasteur Rochette, le 18 février 1762, l'un des derniers martyrs de cette persécution sanglante. Soit dit en passant que ces exactions furent l'une des causes, 25 ans plus tard, de la Révolution française. Le psaume 118 est le dernier de la série du Hallel qui fut chanté par Jésus et ses disciples à la veille de la crucifixion. Ce soir-là, pendant le repas, l'ambiance est bon enfant et joyeuse, mais cependant, avec un fond de tristesse. C'est un jour de fête, mais on ressent qu'un événement grave se prépare. C'est comme si de gros nuages noirs s'amassaient à l'horizon. Jésus a mangé l'agneau pascal avec ses disciples, puis, à la fin du repas, il introduit une nouvelle cérémonie composée de pain sans levain et de vin. Avec ces éléments tout simples et périssables, il a érigé le monument souvenir d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Ce n'est pas un mausolée de marbre, un édifice en bronze ou en métal précieux, non. Ce n'est que du pain et le fruit de la vigne, mais ces symboles représentent Jésus. Nous savons que, pour la Pâque juive, les convives mangent un agneau. Pourtant, dans l'Évangile, il n'apparaît nulle part. Seul le pain et le vin sont mentionnés. Pourquoi donc? Eh bien, parce que l'agneau est là, devant les disciples, leur distribuant ses aliments. Jésus va à la croix pour devenir l'agneau de Dieu qui verse son sang. Le pain et le vin rappellent son sacrifice, et la cérémonie souvenir de la Sainte Cène sera célébrée jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En cette soirée fatidique, Matthieu dit, « Ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au Mont des Oliviers. » Matthieu chapitre 26, verset 30. Pendant le repas, ils ont partagé plusieurs coupes de vin, mais il y en a eu une au sujet de laquelle Jésus a dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. » Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Luc chapitre 22, verset 17. Sur la croix, Jésus a bu une autre coupe, la coupe amère de la colère de Dieu, afin que moi, je puisse boire la douce coupe de la grâce de Dieu. Je commence maintenant à lire le psaume 118. Célébrez l'Éternel car il est bon. Car son amour durera toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel. Oui, son amour durera toujours. Psaume 118, versets 1 à 4. Comme je l'ai déjà fait remarquer, oui, son amour durera toujours. Et répétez, trois fois ici et une quatrième fois à la fin du cantique. Et c'est aussi la première ligne du psaume 106 et 107. Ce refrain résume bien les sentiments d'action de grâce du peuple après leur retour de la captivité babylonienne. Comme je l'ai dit, cette joie éclate quand les Israélites commencèrent la reconstruction du temple de Jérusalem. Esdras chapitre 3, les versets 10 et 11. Je continue le psaume 118. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, et je ne craindrai rien. Que peut me faire l'homme? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Psaume 118, les versets 5 à 7. Ici, la détresse dont il est question est l'exil babylonien. Ces paroles que Jésus a chantées en compagnie de ses disciples ont dû être un encouragement pour lui alors qu'il allait au-devant d'une épreuve atroce qui est soulignée par ces paroles terribles du Sauveur. « Mon Dieu, Pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu chapitre 27, verset 46. Le grand mystère de ce sacrifice est que, comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 19, « Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu le Père a entendu la prière de Dieu le Fils et l'a délivré de la mort en le ressuscitant. » Je continue le psaume 118. « Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. » Psaume 118, les versets 7 à 9. Ces deux versets sont chantés par le cœur des prêtres. Le soutien des rois perses aux colons juifs vacillait au gré des lettres et des nouvelles qu'ils recevaient de Palestine. Il vaut mieux compter sur une intervention de Dieu que sur les promesses des hommes. On trouve des paroles similaires à celles-ci dans plusieurs psaumes de David, le psaume 54, verset 6 et 8, le psaume 92, verset 12. Les détresses et les délivrances d'Israël sont le miroir de celles de leur grand roi. Je continue. Tous les peuples païens m'encerclaient de partout. Mais grâce à l'Éternel, je les taille en pièces. Ils m'en serraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Psaume 118, les versets 10 à 12. Israël a toujours été encerclé de nations qui lui étaient hostiles. Avant et après l'exil est aujourd'hui encore, ceux qui veulent détruire les Juifs sont aussi nombreux et acharnés que les abeilles d'une ruche. Parfois, les peuples païens ont l'avantage sur Israël, mais comme un feu d'épine, leurs victoires sont de courte durée. La seule fois où Juifs et païens se sont mis d'accord, c'était pour crucifier Jésus. Mais le châtiment des uns et des autres fut terrible. Jérusalem fut détruit par l'Empire romain qui disparut pareillement. Je continue. Tu m'avais rudement poussé pour m'abattre, mais l'Éternel m'a secouru. Psaume 118, verset 13. Cet ennemi désigné par tu est Babylone. À un moment donné de son histoire, au VIe siècle avant Jésus-Christ, quand Nabuchodonosor a effacé Israël de la carte du monde, on aurait pu croire que c'était la fin du peuple choisi. Mais c'eût été sans compter sur la fidélité de l'Éternel et ses promesses aux patriarches, à commencer par Abraham, ainsi qu'au roi David. Puis le psalmiste dit, « L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. » Psaume 118, verset 14. C'est une citation du cantique de Moïse après le passage de la mer Rouge dans Exode chapitre 15 et verset 2. Le cœur des prêtres répond à cette citation en disant « Des cris de joie éclatent, des cris de délivrance dans les tentes des justes, car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits, car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire, car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. » Psaume 118, versets 15 et 16. Je continue le psaume 118. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Psaume 118, les versets 17 et 18. Il est vrai qu'au cours de son histoire, Israël a été sévèrement puni, mais cette nation ne disparaîtra jamais. Ce passage s'applique aussi aux croyants, car bien qu'ils meurent, ils ne sont pas livrés aux affres d'une mort définitive et irréversible, mais ils entrent dans la présence de leur Sauveur. Je continue. Ouvrez-moi donc les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je viens pour te louer, car tu m'as exaucé. C'est toi qui m'as sauvé. Psaume 118, les versets 19 à 21. Ce sont les portes d'accès au parvis du temple, l'endroit où le peuple est autorisé à pénétrer. Jésus avait peut-être ses paroles à l'esprit quand il a dit « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. » Jean chapitre 10, verset 9. Je continue le psaume 118. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre de l'angle. Psaume 118, verset 22. Ce passage met l'accent sur un rebut qui finit par occuper la place d'honneur. Quand on construisait un bâtiment, on posait la pierre principale à un angle et on s'en servait de point d'appui et de référence pour aligner les murs. Quand les Israélites ont reconstruit le temple, ils ont dû utiliser des matériaux minables et endommagés du temple précédent, celui de Salomon, détruit par les Babyloniens. Pareillement, le peuple élu a toujours été méprisé, mais grâce à Dieu, un jour, l'humanité tout entière lui devra le salut. Plusieurs textes du Nouveau Testament appliquent ce passage à Jésus lui-même. Matthieu 21, les versets 42 à 44. L'apôtre Paul l'utilise pour dire que le Christ est la pierre d'angle de l'Église. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et l'apôtre Pierre cite deux fois ce passage pour expliquer avec gravité qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Je lis ces textes. Jésus est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « J'ai choisi une pierre de grande valeur, et je la pose en Sion, à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. » Actes chapitre 4, les versets 11 et 12. 1 Pierre chapitre 2, les versets 6 et 7. Pierre développait un texte du prophète Ésaïe qui dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. » Ésaïe chapitre 28, verset 16. Je continue le psaume 118. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. Psaume 118, les versets 23 et 24. La dédicace du nouveau temple fut la preuve qu'Israël avait bénéficié du secours de Dieu, et c'était aussi la garantie de bénédiction à venir. Par ailleurs, cet événement anticipait la résurrection de Jésus, puisque lui-même a dit « Démolissez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Jean chapitre 2, verset 19. Or, l'Évangile précise que Jésus faisait allusion à son propre corps. Jean chapitre 2, verset 21. C'est donc avec raison que dans l'église anglicane, ce psaume est lu pour Pâques. En troisième lieu, la journée de l'Éternel est aujourd'hui encore un jour de grâce où vous pouvez accepter Jésus comme votre sauveur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit l'auteur aux épîtres aux Hébreux au chapitre 3 et au verset 15, au chapitre 4 et au verset 7. Je continue le psaume 118. De grâce, ô Éternel, daigne sauver de grâce, ô Éternel, accorde le bonheur. Psaume 118, verset 25. Daigne sauver, c'est la traduction de Hosanna, qui est une prière et un hommage au Messie que les Juifs attendent. Je continue. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Psaume 118, verset 26. C'est la salutation que les habitants de Jérusalem adressaient aux pèlerins qui venaient aux grandes fêtes. Le dimanche des rameaux, quand Jésus entra dans la ville, la foule l'acclama comme le Messie en disant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. » Matthieu 21, verset 9. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 29, c'est aussi par ces mots qu'Israël accueillera Jésus lorsqu'il reviendra pour établir son règne. Je finis de lire le psaume 118. L'Éternel seul est Dieu, c'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu, célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Psaume 118, les versets 28 et 29. Ce dernier cantique du Hallel est un modèle pour louer, célébrer et chanter l'Éternel.